Bonjour, nous sommes sur Radio Aligre FM 93.1 dont la vie est un roman. Yves Thoret m'a invité à vous rejoindre ce mardi matin et donner carte blanche pour vous présenter depuis chez moi à Lausanne, confinement oblige, mon travail de poète. J'ai en réalité deux activités parallèles mais non sans rapport, auteur de poésie, oui, mais je suis aussi, par métier, chercheur en littérature à l'Université de Lausanne. Nous publions des archives inédites d'écrivains, le plus souvent des correspondances, ou des textes inédits qui nous sont confiés par les ayants droit des écrivains de Suisse française, parfois par les auteurs eux-mêmes. Et nous éditons des publications scientifiques, par exemple d'œuvres complètes, de Gustave Roux, de Ramu. J'ai publié moi-même plusieurs correspondances au cahier de la NRF chez Gallimard et édité l'œuvre de Philippe Jacotet à la bibliothèque de la Pléiade, accompagné dans mon travail par mes collègues Jean-Marc Sourdillon, Hervé Ferrage, Fabio Busterla et Doris Jakubek. Si j'en parle, c'est que ces deux activités, la poésie et la recherche en littérature, se nourrissent de manière assez insidieuse et secrète, mais de manière plus consistante que je l'ai toujours avoué. J'ai toujours pris soin de dissocier ces deux activités, poésie, études critiques, recherche scientifique, écriture personnelle. Et j'ai toujours voulu cloisonner, distinguer. Mais je me dis aujourd'hui que si j'insiste tant sur ce cloisonnement, c'est que la réalité est moins claire que ça. Je pense sincèrement aujourd'hui que ces deux activités se nourrissent profondément, l'intuition de l'une et l'attention critique de l'autre. La liberté de l'écriture personnelle, une liberté discutable d'ailleurs, et la rigueur des contraintes scientifiques. La confiance dans le pouvoir des mots et la méfiance que ce pouvoir suscite. Enfin, une activité plus intermittente mais importante pour moi, c'est la traduction. Je lis beaucoup de poésie en traduction et j'en traduis parfois. C'est un exercice très salubre pour mon propre travail d'écriture, un exercice de désappropriation de moi-même et de redécouverte de ma propre langue. J'ai traduit notamment avec Marion Graff, une excellente traductrice du russe, la poésie d'Anna Armatova aux éditions de la Degana, immense poétesse russe. J'ai traduit seule en revue quelques poètes, plutôt poétesses latino-américaines, et surtout récemment en volume, la grande voix du Costa Rica, le poète Laureano Alban, sur lequel je reviendrai peut-être. Mais la poésie, c'est quoi? De quoi parle-t-on? Est-ce un texte en hauteur? Une phrase qui revient toujours à la ligne? Une expression lyrique de soi, plus libre que la prose, plus rythmée, plus chantée? C'est une question que je me suis beaucoup posée en traduisant Laureano Alban, par exemple, ou Anna Armatova, en travaillant sur l'œuvre de Philippe Jacotet, une œuvre en prose le plus souvent, et en écrivant moi-même. La plus belle réponse pour moi est celle qu'a donnée le poète Rilke. Il dit qu'on ne fait pas de poésie avec des sentiments, mais avec des expériences. Les sentiments ne sont pas bons à dire, il faut les transformer. La poésie, comme la recherche, exige de celui qui les exerce à la fois de l'imagination, de l'intuition, des audaces et de la rigueur critique. La poésie ralentit la parole, comme la recherche d'ailleurs ralentit la lecture. À cet égard, la Pléiade sur l'œuvre de Jacotet a représenté pour moi l'apogée de ce ralentissement. Quand j'ai observé le travail inlassable du poète devant ses textes en travail, ses manuscrits, ses ébauches, ses brouillons, j'ai pris conscience de l'inquiétant labyrinthe d'une œuvre. Le chemin qui mène au livre est un chemin saisissant. Cette transformation des sentiments, cette mise à distance de leur immédiateté, à la fois exigeante, rythmée, condensée, métaphorisée, à quelque chose de complètement fascinant. Donc la plongée en apnée sur plusieurs années dans l'œuvre de Philippe Jacotet a été pour moi structurante, enrichissante et m'a confortée dans l'idée que la poésie est un vrai travail. Encore un mot avant de vous lire quelques premiers poèmes. Si j'écris en vers libre, c'est que j'aime cette forme concise, elliptique, verticale le plus souvent, dressée sur la page, debout. J'aime l'air, le blanc, les espaces entre les mots et leur martèlement sur la page. J'aime cet enchaînement, pas toujours soumis à la syntaxe et même rarement, qui répond à des évidences intérieures plus fortes que les exigences grammaticales. J'aime cet éclatement de la forme versifiée, cet apparent démembrement de la phrase que la voix tente de contenir, d'embrasser, de relier le temps d'un livre. Enfin, la poésie, c'est simplement du texte aussi qui raconte quelque chose. Je publie depuis 1983, date de mon premier recueil, intitulé Heure immortelle, bon, un titre que je n'aime plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin, il faut se respecter soi-même. Et je vais vous lire tout de suite quelques poèmes de ce premier livre. Ils sont tirés de la quatrième partie, Liban, septembre 1982. Un cri de violence partout nous arrache aux vivants, renverse nos abris, déracine sans pitié ce que nos mains fidèles ont si longtemps porté. Ainsi, de l'autre côté des mers, périssent les lauriers roses, dont la sève essentielle savourait la lumière, et la pensée en nous s'arrête, pieds liés dans la nuit. Comment parler en ce monde déchiré? Le vent bâillonne la plaine devant tant d'épouvante. Que nos pauvres forces humaines nous aident cependant à porter jusqu'au fleuve la ville massacrée. Car nous voulons baigner dans l'eau fuyante et les courants rapides, ces murs tout incendiés, brûlés jusqu'à la brique. En cette heure de misère, je couvre de tourbe noire mon visage trop clair et je mêle aux pierres pulvérisées un chant sombre comme le sang. Battre d'une rame obstinée les flots lourds de la nuit et survivre sans repos en cette immensité. La terre au commencement éclairait l'univers, éboulie de lumière, retenue dans leur chute par les grandes nasses du ciel. Tant d'espace pour apaiser les yeux, tant de silence impérissable. Mais aujourd'hui où l'homme de sa fronde tournoyante menace l'équilibre séculaire, les buissons à grand-peine fixent l'été sur les pentes désertes. Lorsque le monde entier aura disparu des plus grandes cartes marines, et que la voûte céleste aura sombré dans l'océan, peut-être qu'une audace nouvelle, jeune vigne dans l'ébauche du globe, osera risquer ses feuilles entre cailloux et ruines. Et la terre, peu à peu, retrouvera, remontant le passé, la longue patience des chèvres, penchée sur les chardons depuis la nuit des temps. Il y a toute une mythologie de la poésie. On pense en général que c'est une forme d'expression assez irréfléchie, irrationnelle, intuitive, plus libre précisément pour ces raisons-là. Un chant de l'âme qui se passerait de démonstration. Deuxième cliché, que la poésie est un épanchement de soi, par excellence, genre littéraire favorable au discours intime, comme s'il n'y avait pas de fiction et de narration en poésie. C'est vraiment le contraire qui est vrai. Tout mon travail consiste essentiellement, je m'y efforce en tout cas, à ne pas me raconter. Je cherche très longtemps ce que je ne vais pas dire, par exemple, plutôt que ce que je vais dire. Et par ailleurs, la poésie, pour moi, doit toujours être exacte, fondée. J'aime cette clarté des lumières. L'exactitude recherchée est peut-être inaccessible, mais elle est toujours dans mon viseur. C'est la retenue qui a de la voix. Notez que plus l'expression, en fait, devient précise, plus la marge de surprise, d'inattendu, est grande. J'avais lu un passionnant entretien paru dans le journal Le Temps avec le comédien Jacques Weber, qui disait que la sauvagerie du comédien ne peut surgir qu'à partir d'une mise en scène infiniment concertée, précise et ordonnée. Voilà un propos qui m'a profondément parlé. Mon travail sur les livres qui ont suivi Air Immortel, par exemple, comme Terre battue en 1995 ou Hangar en 2006, a consisté essentiellement à ne pas me raconter, à ne pas entrer dans l'anecdote autobiographique, à dire les choses vraies, mais de manière construite. Comment faire rebondir l'émotion sur quelque chose, l'éluder, mais sans la fuir? En d'autres termes, comment dire le particulier, mais pas le privé? Comment se mettre hors champ, mais pas hors jeu? C'est pas donné, et je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais écrire pour moi tient de cet effort sur soi, de ce chemin intérieur qui m'est absolument nécessaire si je m'adresse à autrui. Voilà ce que j'ai tenté de faire, par exemple, dans mon troisième recueil qui s'intitule Terre battue, paru en 1995 chez Empreinte à Lausanne et repris ultérieurement en édition Poche Poésie. J'ai tenté de dire quelque chose, bien sûr d'intime, mais en le transposant de manière plus impersonnelle ou plus universelle. Alors, quel est le sujet du recueil? C'est la césure, s'il faut résumer, la césure entre un passé proche et le présent. Comme si, à certains moments de l'existence, vous sentiez une forme de crevasse ou même de précipice entre une partie de vous qui s'éloigne et celle qui perdure. Impossible de relier les deux bouts. Et c'est très douloureux. M'est venu en aide pour échapper à l'anecdote autobiographique le mythe en l'occurrence biblique de la femme de Lot à qui est dédiée la première partie de Terre battue, changée en statue de sel pour avoir regardé derrière elle. La femme de Lot a figuré de manière emblématique une expérience qu'on peut tous vivre, profondément intime, c'est que la nostalgie pétrifie. Pour surmonter une perte, pour continuer à vivre, pour aller au-delà d'une rupture intérieure, il faut parfois lâcher prise. La terrible tentation de s'accrocher au passé, de retenir ce qui s'éloigne, de refuser d'aller vers l'inconnu peut être mortelle. Voilà un peu le thème pour moi de Terre battue. Et dans la Bible, les figures de Lot et de sa femme fuyant Sodome en feu, l'un marchant droit, l'autre, elle, se retournant pour voir une dernière fois la maison qu'elle abandonne, le jardin qu'elle aime, mue par une déchirante nostalgie, ces deux attitudes m'impressionnent, me parlent. On peut s'identifier, je pense, tour à tour à chacun d'eux. Alors je vais vous lire les premiers poèmes du recueil. Entre hier et demain, je marche sur une planche vacillante dressée par la lumière. Dessous, le vide, l'effroi des profondeurs, un monde fracturé où miroite la mémoire. Lucarne dans le noir aujourd'hui. Le ciel si dur, si fermé, assiette de fer blanc où frappe sans répit le bec à vide des oiseaux. Il faudrait clouer la faim sur les portes de hêtre ou l'étouffer avec un chiffon d'herbe. Nerveuse, mon ombre balaye le sol, prête à bondir à l'affût d'on ne sait quel mot d'ordre, quelle étincelle. Mais je la tiens très courte, nouée à mes chevilles, comme bête soumise, couchée dans la poussière. Parfois, sans raison, traînée de cigares sur la terre froide, cette même ombre me désigne du doigt, inerte, à moi-même étrangère. Comment guérir, mettre en plâtre cette fracture, comment tenir l'incoercible? Bander étroitement les deux parts de moi-même, serrer dur le présent, le passé, unir de force ces deux moitiés brisées, méprise. La face tranchée, un profil pour hier, l'autre pour demain. Borgne chaque fois, derrière le bandeau noir d'une vie disjointe. Si vétuste la lumière, à peine quelques grains jetés dans la main des vivants. Bienheureuses les poules sans esprit. Moi, je picore les restes avariés d'un vieux rêve passé que rien ne peut me faire lâcher. Dans la deuxième partie, intitulée « L'île », le vent occupe une grande place. Il représente sans doute ce mouvement nécessaire, à la fois inquiétant et rassérénant, une sorte de respiration vitale qui remet en mouvement la pensée, comme d'ailleurs le sentier, très, très central pour moi, tant le sentier réel sur lequel avancer, poser ses pieds, que le sentier intérieur, retrouver une direction. Perdu la place en terre battue où couraient dans l'affolement les poules, perdu le gobelet de fer blanc où tintaient mes cailloux, perdu le miel vanillé des œillets et la mûre savoureuse. Qui sait, demain peut-être la lumière durcira, brûlant poignard sur la table des blés. Affairées, les hautes tiges d'anis s'agitent avec le vent, frappent l'air, le ciel, obstinément, bâtissent on ne sait quel édifice. Bruissant de mouches ou blancs comme lait d'amande, toujours usé, aujourd'hui déserté, à l'écart, il vieillit. Le chemin, laissé là, mince épluchure, oublié dans les champs. Lentement, j'ai ramassé au bord des tables les dernières miettes de nos voix. J'ai bu le lait au fond des tasses. J'ai endormi l'enfant, sa peau boisée. Seule tressaille l'ombre du mimosa. À l'insu des regards, j'enfile la cagoule du vent et je vais anonyme. Si douce la nuit, son velours est limé sur mon corps disparu. Sentier d'essaim et de poussière, de paille et de blé vert, sous les pieds sa vertèbre millénaire. Pas à pas me glisser dans cet étroit fourreau. Sur mon dos, je porte une brève histoire nouée dans un foulard. Peu importe si j'oublie son début, sa fin, si j'en perds l'origine, le chemin tousse avec mes pas. L'air tourné comme un linge sur ma tête, un peu de ficelle autour des pieds, délesté de l'étourdie éternité, je passe, plus légère que l'ombre, la douane du crépuscule. Tout au bout du sentier, les posés loin, très loin, ce baluchon d'années, les données aux ailes bénévoles du vent. On a tendance à penser que la poésie est un art à part, confidentiel, je sais pas, économe, retenu, qui tiendrait du murmure ou de l'effusion éthérée. Or, le livre de poèmes en vogue aujourd'hui, je pense à Jean-Michel Maupois, Guy Goffet, André Velter, par exemple, ou Martin Rueff, c'est souvent des livres de 120 à 150 pages. Ils offrent un vigoureux démenti à cette idée toute faite que la poésie serait une forme anorexique de la littérature. Ces livres ont le mérite de nous rappeler, qu'on aime les lire ou pas d'ailleurs, que la poésie c'est du texte comme la prose, fait de mots disposés sur la page avec des voix multiples, une certaine occupation de l'espace, pas seulement de page à page, mais sur l'espace d'un livre, avec des chapitres, des parties, une table des matières, un début, un milieu, une fin. Eugène Savitskaya, pour n'en citer qu'un, poète belge, que j'ai beaucoup lu en écrivant Terre battue, représentait pour moi cette frontière très poreuse entre la prose et la poésie, et faisait partie comme ça de mes compagnons fétiches. Pour moi, la poésie, c'est vraiment raconter quelque chose et aller quelque part. Ce qui explique peut-être le fait que je n'arrive personnellement pas à mettre de titre à mes poèmes, ce qui me donnerait l'impression, fausse peut-être, d'épingler mes textes sur une paroi comme on épingle des papillons. Or, chaque poème pour moi est le moment d'un texte ou d'un discours unique qui viendrait se fragmenter au fond à la dernière minute sur le recueil. Mes poèmes sont une sorte de longue phrase continue qu'idéalement il faudrait lire du début jusqu'à la fin sans sauter n'importe où. Un peu, je dirais, pour prendre une image, comme les vertèbres dorsales forment ou permettent le mouvement du corps humain. Mes livres sont des montages. En raison du choix que je fais dans mes textes, on parle de la réalité, mais on écrit des fables. Dans Hogar, mon cinquième recueil paru en 2006 et repris aujourd'hui en collection de poche chez Zoé, je raconte la destruction d'un lieu, aussi bien extérieur qu'intérieur, un lieu qui perd son sens, qui s'éloigne irrémédiablement. Comment dès lors habiter cette désertion? Comment fixer ce vide pour le comprendre? Comment en inventorier les signes, les traces insupportables? Nommer un à un tous ces vestiges tangibles qui disent la perte, le non-retour, une plénitude mise à mal. Eh bien, ce sont les choses humbles, sans prestige, banales, les choses de peu qui sont venues à ma rescousse. Elles se sont mises à parler pour moi et m'ont permis, au fond, d'amarrer le vertige quelque part et de le dire. Une vieille bâtisse désaffectée, à l'image sans doute d'un autre abandon plus intérieur, des machines hors d'usage, des outils, une certaine végétation, parfois un animal, des gestes aussi, dans leurs tâches domestiques, tout cela a pris le relais. C'est l'espace qui s'émiette, déserté. Le titre « Hangar » renvoie sans doute à cette fragilité-là, mais désigne aussi dans le même mouvement une sorte d'abri, de refuge provisoire ou de toiture qui me protège du froid. Je vous en lis le début. Sur l'abîme, la bâtisse penche, livrée au vide, instable avec son encre d'herbe, on dirait qu'elle s'enfonce, prend l'eau, désormais sans défense contre la nuit qui monte. Au tournant, une distillerie touche de sa haute cheminée grise le ciel, les iris noirs debout, si droits sur les talus. Pêle-mêle sur la terre froide, à l'envers, les tuiles. Tout cet espace, soudain, ces courants d'air sous les poiriers. d'un jour à l'autre plus vide, ce lieu plus inutile, rendu aux mousses et aux sorbiers, aux griffes de l'air contre la vitre. À son tour, le vent s'écarte pour libérer la place. Chantier de câbles et de brouillard, ravagé par les pluies, même le silence avec les planches pourrit. La table de fer avec ses pieds rouillés, sous la pluie redevient tôle, soudure. On les rassemble tous ces débris, on les attache. Mince bagage de toute une vie pour le corps sans appui. Le poids n'est pas dans le fer ou le plomb, il est dans la fumée qui m'arrache à ta vue, dans cette lame de poussière qui nous déchire en deux. Presque plus rien à hauteur d'homme, seuls les murs debout et qui respirent doucement, sous le poumon doré des vignes. La soupente désertée, dans le sureau, toutes les araignées. Enclume réduite en pur limail, ne reste sur le sol que pointe de métal. Elle miroite au pied des arbres, tentaculaire. Éteint le bruit des machines, hors d'usage, les courroies, les poulies. À reculons, je marche, les yeux fixés sur cet amas de portes arrachées. Loin sous les arbres, très loin, l'eau roule, une avalanche d'oubli. Toute une existence réduite à quelques mètres carrés de cendres et de déchets. Les mots se frottent au gel, au grincement pétrifié des vis et des écrous. Les mots cherchent l'étincelle. Maigres allumettes, elles se brisent, une à une. Pour y voir clair quand je m'en vais, incertaine, je cherche du bout des doigts les jeunes chardons couleur de taupe. Eux persistent dans la nuit fade. Tu t'adosses au vide, cherche l'équilibre dans le déséquilibre. Moi je plie mes effets et m'en vais peu sûr, toute ma maison dans une piètre valise. Comme des chiens, les feuilles mortes à ses talons l'escortent. Le corps lourd, il tangue, se cogne à la nuit dure, à sa face d'écorce. La poésie ne va rien changer à la violence du monde, à sa brutalité, à sa décadence, mais elle représente sans doute, pour moi en tout cas, un contre-feu nécessaire à la destruction générale, à cette fuite en avant. J'aime la poésie pour cette économie et cette concentration qui la caractérise. Elle a toujours représenté pour moi cette résistance nécessaire à une profusion anarchique, au tohu-bohu de l'existence, à la violence des impulsions brutes, au langage qu'on jette à la face d'autrui, sans nuance, sans distance. Au fond, c'est la retenue qui a du sens, savoir ce qu'on dit, mais surtout ce qu'on va taire, ce qu'on dévoile et ce qu'on cache. Et cette quête, au fond, de l'impersonnel, en soi, est une quête d'émancipation. Il faut s'émanciper de soi-même pour mieux rejoindre autrui. Sans y parvenir, sans doute, c'est pourquoi on se remet toujours à écrire. À chaque nouveau recueil, à chaque nouveau travail, je me remets en état d'apprentissage, à l'apprentissage de cette émancipation intérieure, pour retrouver le mouvement, le chemin, un chemin, avec ce mouvement des pas, ce mouvement du cœur, ce mouvement du corps dans l'espace, et tout au bout la lumière. Au fond, le fait de nommer les choses, de planter un décor, de dessiner un espace, est un premier pas vers cette émancipation. J'ai toujours admiré beaucoup le travail des sculpteurs. Je suis très sensible à ce geste, à la fois violent et maîtrisé, ce corps à corps avec un bloc de marbre ou de granit, non pour, je dirais, le dominer ou le dompter, mais pour y glisser une inquiétude humaine qui le fasse parler. C'est un geste qui résonne beaucoup pour moi. À ma façon, j'ai l'impression de tailler avec les mots, moi aussi dans une masse informe, anarchique, vertigineuse, la masse écrasante du vide. À force de tailler, on retrouve parfois la lumière, le sentier, le mouvement, l'apaisement. Une écume frissonne, un duvet d'amandier, haleine rose, ou buée sur mes yeux. La lumière des mains légères la frotte à la pierre ponce, la pierre saline, les mains rapides qui distribuent celles qui brillent des débris de la nuit. Sur un banc de fortune sali par les orages, j'aligne mes planches et mes outils, les couvre d'une bâche contre la pluie, le brigandage. Pour amis, les fumées sans abri, hirsutes et négligées. Si blanche la fleur du caprier qui s'ouvre avec le jour, si souple sa tige qui s'appuie sur la roche. Moi, l'entêté, je me hisse à l'air libre, m'obstine. À mon épaule, le ciel pend comme un sac, fatigué. Déchaussé, maladroit, on marche sur le lourd, le rigoureux gravier des jours. Et pourtant, tous ces blés, l'âpre et mûr citronnier, l'épice fumée du large appelle. Et s'allège la détresse à mesure que j'avance, haute et tournoyante colonne de vent, ne laissera plus au fond du ciel, quand j'aurai disparu, qu'illusoire sillage. Basse, nouée de fil noir, les vignes sur les terres farineuses, comme des croix. Un chemin désuet s'accroche, tout bas murmure avec ses fables, porte secours. Vieux chemin, je te tiens contre moi, ta barbe, ta terre usée, tes buissons, je te berce avec mes pieds. Plus récemment, je me suis tournée vers une poésie plus narrative encore, plus phrasée, avec de la ponctuation et des poèmes plus longs sur la page. J'avais besoin d'épouser une autre durée, une autre patience, peut-être m'éloigner de certaines formules plus fulgurantes, plus percutantes, sans doute par résistance au monde comme il va et comme il déraille le plus souvent, par nécessité de trouver un contre-feu. Face au despotisme aujourd'hui de l'immédiateté et de la brièveté terrifiant, face à la tyrannie de l'instantané où tout devient spectacle et mise en scène de soi, il faut le dire, vouloir échapper au regard d'autrui devient un sport de haut niveau. Me décentrer ou me recentrer autrement devenait une question de survie. Il me fallait trouver des échappées. Redonner place à la nuance, à ce qui ralentit la pensée, à l'hésitation en poésie, au vacillement, à la lenteur aussi, déplacer le curseur et donner voix à ce qui trébuche, à ce qui est discret, sans exaltation dans ma parole, sans hystérie, sans passion non plus. Je me suis tournée vers des figures de l'ombre qui s'ignorent elles-mêmes et surtout qui m'ignorent, des existences ordinaires et sans éclat, trouvant refuge pour moi-même dans cette invisibilité active. Ce dernier recueil s'intitule « Trazos Montes ». Il a paru en 2018 aux éditions de la Dogana. Trazos Montes est une région située aux confins du Portugal, dans la partie nord-est du pays, qui touche au fond une partie de la Castille, région déshéritée, où vivent de petites communautés regroupées par villages, ou toutes petites bourgades, aujourd'hui, il faut le dire, vieillissantes, confinées de par leur précarité dans des mœurs encore ancestrales, mais aussi beaucoup de conflits tenaces, des rancunes séculaires, des histoires de vengeance, une humanité au fond attachante et primitive à la fois. Ce lieu que j'ai connu pour des raisons personnelles m'a toujours beaucoup parlé par sa sauvagerie, son enracinement aussi dans une histoire. Et puis j'aime ce nom, ce mot, Trás os Montes. C'est une sonorité aux consonnes rugueuses, une silhouette, trois mots, deux traits d'union. On relie ce qui est dispersé, morcelé, on le répare au fond par ces traits d'union. Et puis surtout le sens de la traversée de l'autre côté des montagnes, littéralement Trás os Montes. Traverser aussi des montagnes qu'on porte en soi, des régions reculées du cœur peut-être, des régions escarpées, et les mots pour faire cette traversée sont mes plus sûrs soutiens. Voici quelques poèmes de la première partie dédiée à Maria. Cette dédicace suscite peut-être un léger malentendu. Il ne s'agit pas d'un portrait de femme, pas non plus d'un livre féministe, ni d'ailleurs d'une utopie passéiste. J'ai voulu prêter ma voix simplement à quelqu'un d'apparemment insignifiant, de réel, mais d'anonyme, à ses gestes, à ses tâches domestiques, parce que cette existence ordinaire que j'ai côtoyée, presque invisible et qui s'ignore elle-même, a quelque chose pour moi de crucial ou je pourrais presque dire d'héroïque. Hein, j'ai tenté d'écrire une sorte d'épopée du quotidien. Levée avant le jour, tu laves le sol en bas, forte à la tâche. L'eau, tu la jettes sur la pierre sale, la fais glisser. On voudrait l'éponger, mais tu vas vite, efface en hâte les marques de pas, les traces noirâtres. Au vent, toutes portes ouvertes, séchera l'humidité. Au vent qui passe, sa serviette grasse, froissée. Déjà des deux côtés, dans la pénombre qui s'allonge, tu alignes les vases vides. Étroit le corridor, long comme la nuit, une nuit sans fin, éclairée tout au bout par le vert dépoli des étoiles. Concentrée, elle ignore nos appels, ne lève même pas la tête quand on s'adresse à elle. Rien ne pourrait la distraire de ses besognes, le carrelage sous l'eau courante, les robinets à refermer et l'éternel affaire du vent. Comme un foyer où rien n'arrive, rien sauf la lumière, et cette fine couche de poussière sur les meubles qui s'éclaire, s'allume. Entre les chambres, les couloirs, elle va, elle vient, sans chercher d'explication. Peu lui importe que chacun de nous, affamé et bruyant, s'attable devant le téléviseur allumé. Elle court à l'épicerie, chercher le lait qui manque, le café soluble, la limonade. Les voisins la regardent, chuchotent quand elle s'en va, chaque jour, depuis des décennies déjà. Mais nous, comment nous orienter, ne pas trébucher constamment sur le linge entassé et les sacs en désordre? La cour est une grande bouche difforme où s'engouffrent les cris. Brûlée ici et là par négligence, la nappe cirée sent la fumée l'après-midi. Tandis que la lumière, dehors, somnole, sous les genêts, couleur vanille. Depuis toujours, elle les connaît, ces lieux, avec leur bruit, leur tracas, une fuite dans les tuyaux, le linge à plier et l'odeur âcre de la cuisine. Même l'invective, ses mains savent la calmer. À chaque heure, son habitude, un geste qu'elle seule perpétue. Mon souvenir m'apaise quand je lave les laitues sous la fougère de l'eau avant de préparer le repas comme de coutume. Avec elle, je déplace en silence les couverts. D'une main soucieuse, elle ramasse les pipes froides, les assiettes, les tasses. On voudrait l'entendre longtemps, sa main triste et lente passer sur la table. Triste ou seulement retenue, faute de comprendre. Et cela même nous réconforte. La paix n'a pas de visage. Elle a quatre pieds en bois et des gestes coutumiers. Derrière la figure de Maria c'est la vie de tous les jours que j'aimerais interroger parce que c'est la mienne, la vôtre. Ce livre ne dresse pas son portrait ni ne s'adresse en fait à elle, qui ne me lira jamais. Elle est une lampe pour moi. Elle m'éclaire et m'aide et nous aide à nous penser. Par exemple, notre rapport à la solitude, le rôle du passé dans le présent, ou bien le sens des gestes quotidiens que nous accomplissons tous les jours au regard des grands enjeux planétaires. À quoi ça sert? Ou encore de quoi est faite l'énergie de vivre, de survivre? La force n'est pas où l'on croit qu'elle est. On la trouve souvent dans un monde laissé pour compte, déshérité, disgracié. Alors que notre société prodigue, matériellement cossue, abondante, ne cesse de nous fragiliser. Dans ce recueil, j'ai voulu me relier à l'humain qui nous donne l'énergie de continuer, de poursuivre, et à l'humain qui est au fond de moi, au fond de nous. Menu, penché au-dessus de l'évier, si loin de nous, sous son tablier bleu, perdu, dans ses bottes de pluie, elle trie les cerises noires et pose les plus mûres à l'écart, les sépare des pourries. On dirait qu'elle mesure un vieux rêve à distance, qu'elle le visite du bout des doigts. Derrière la vitre nue, les nuages font des taches. Le silence pour elle ne connaît plus d'obstacles. Elle le regarde monter sans impatience, comme une urgence, sans fin. Comment dormir pourtant sans retourner au potager encore une fois? Reprenons le chemin comme on remonte le temps, pour s'assurer que tout a bien été quitté, dans les règles et paré avant l'orage. L'arrière, parfois seule chance pour demain. Ainsi s'ébruitent les jours sous ces semelles de feutre, entre l'eau à chercher et les branches qui cassent, toujours à s'affairer. Dans l'intervalle, parfois, s'immisce comme un regret. Mais elle le pousse du pied, scorie, sans intérêt. Elle a trié, rangé, tout préparé pour les jours rigoureux, lorsqu'au peu s'ajoutera l'inquiétude du moins. Entre les bûches, le papier a brûlé. À la poutre suspendue, fanes séchées, torchons, oignons, couleur de rose. La solitude, elle sait l'entretenir, plus précieuse qu'un cuir, souple et rare. À mon tour, j'en ferai mon étoffe, ma toile, et de l'absence si souvent redoutée, un endroit où aller. On pense souvent que la poésie est la voix militante de la littérature ou qu'elle porte les germes d'une rébellion et qu'elle parle haut dans le vacarme du monde. Pour moi, la poésie est à l'exact opposé. Celle qui me touche, en tout cas, offre une tentative, je dirais, de répondre au vacillement de chaque instant, à sa précarité. Elle permet peut-être de dresser autour de nous un léger rempart de mots. Elle nous protège par une sorte de bouclier de papier ou de fougère de la violence des ouragans. Elle permet aussi de restaurer peut-être une meilleure distance avec l'événement en freinant la lecture, en instaurant une plus grande concentration. La poésie, en tout cas, ne peut, à mon sens, ni convaincre, ni réparer, ni changer le monde, elle peut juste témoigner. Alors, j'atteste, ce sont les premiers mots d'un poème écrit le 10 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, par le poète marocain Abdelatif Labi, un poète réfugié en France aujourd'hui, qui avait dénoncé avec force tous les fanatismes et l'islamisme radical. Les deux premiers vers de ce poème disent ceci: « J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble. » J'aimerais à ma mesure, donner voix à ce tremblement quand on essaye d'avancer debout dans un monde brutal. Avant de vous quitter, j'aimerais beaucoup vous parler brièvement de ce grand poète du Costa Rica, Laureano Albán, dont la voix m'accompagne depuis si longtemps et dont j'ai fini par traduire les psaumes pour conjurer la guerre, écrits dans les années 86-87, durant les années sanglantes de guerre en Amérique centrale, et resté, hélas, si on peut dire, d'une brûlante actualité. Laureano Albán a toujours mis la poésie au service d'une mission humaniste et civilisatrice, s'engageant pour la paix, la justice, le respect des peuples, s'attachant aussi à donner voix aux cultures ancestrales et à leur héritage. Il a poursuivi parallèlement à la poésie une carrière diplomatique importante entre Madrid, New York et Israël. Je dirais que son œuvre et sa vie professionnelle ne sont pas sans rappeler au fond celle de Pablo Neruda, le grand poète chilien. Son œuvre compte une vingtaine d'ouvrages, pour la plupart traduits en anglais, couronnés de nombreux prix, mais il n'avait jamais été traduit en français. C'est la romancière colombienne Elena Rauro, disparue en 2015 et qui était réfugiée à Lausanne, que j'avais eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, qui m'a conduite dans les années justement 80 environ à la poésie de Albán et qui m'a encouragée à le traduire. Je l'ai ensuite rencontré aussi à Lausanne et il m'avait confié ses psaumes pour conjurer la guerre. Cette voix généreuse, prolifique, débordante, engagée, nourrie de l'héritage culturel amérindien, exaltée par la métaphore, rêvant de concilier mémoire et utopie, fait toujours dialoguer l'histoire et la légende. Elle rappelle inévitablement le très beau poème « Auteur de Machu Picchu » de Neruda. Au fond, chaque poème est une sorte de coulée de lave qui charrie passé, présent, futur et nous plonge avec un grand souffle oratoire dans un univers d'une très grande puissance. C'est une poésie extrêmement difficile à traduire et je pense que le fait de ne pas maîtriser parfaitement l'espagnol, ce qui est mon cas, m'aura sans doute protégé de toute inhibition. Pour pallier mes insuffisances, j'ai aiguisé fatalement d'autres facultés de perception et laissé l'imaginaire, au fond, et l'empathie intuitive faire un bout du trajet. Je vais vous en lire quelques pages, peut-être vous donneront-ils envie d'en lire davantage. Ces psaumes d'une grande sensualité ressemblent un peu à des prières où le sacré confère à des existences très humbles la dimension d'une épopée. Ils ont paru en version bilingue aux éditions Calligram à Rennes en 2018, en même temps que mon recueil d'ailleurs, Trazos Montes à la Dogana. Coïncidence tout à fait fortuite. Je connaissais les éditions Calligram par les traductions du poète d'Allemagne de l'Est Rainer Kunze. Ils en ont publié plusieurs. Et cette édition qui publie avec le plus grand soin de la poésie bilingue a accueilli avec une immense générosité et une certaine passion, faut le dire, la poésie de Laureano Albán. Si cette grande voix costaricienne atteste de manière toujours actuelle la douleur profonde des hommes, elle témoigne aussi de l'absolu qui habite l'humanité. Par son style énumératif, vous verrez, qui fait penser à la voix des grands prophètes, elle conjure, elle essaye de conjurer la malédiction qui pèse sur la terre tout en célébrant la beauté miraculeuse du monde. Et voici maintenant quelques poèmes que je vais vous lire en langue française. Je suis malheureusement incapable de les lire en espagnol. Nous sommes les pieds debout, les villes debout, les yeux debout, érigés par la salve éclatante de l'argile. Nous sommes le jour fait de matière repoussante, la lenteur du marbre qui monte jusqu'aux vitres comme un cri décomposé. Donnez-nous la paix. Nous sommes les enterrés dans une flore asphyxiante, les aveuglés dans l'obscur dédale du blé, nés soudainement comme un bleuissement de larmes tous vêtus d'éphémère et d'oubli, ceux qui donnent au hasard leurs jours et leurs enfants. Donnez-nous la paix. Nous sommes ceux qui sont nés la lune au creux des mains, dans les cavernes de l'air et de la terre, seuls comme la pluie solitaire dans les yeux de l'oiseau, et de courir aveuglés par le dard de la foudre, derrière les gazelles invisibles du vent, la hache dans les mains et la fleur entre les lèvres, ivre des ronces dans les brumes du hasard. Donnez-nous la paix. Nous sommes les condamnés à n'être qu'un rêve qui bascule, bleu de nuit, limpide le jour, assiégé par les yeux innombrables du vide, fait de bois et de larmes, de briques et de feu, les bâtisseurs des hautes tours du rêve. Donnez-nous la paix. Nous sommes les constructeurs de la terre et son oubli, les mains d'argile dans la lumière qui monte, la voûte des ponts sur l'œil soumis du temps, la stèle dressée entre l'ombre et la lumière, le semeur de roses et l'abîme ardent. Ceux qu'on destine aux larmes, les héros dans leur nuit, la vérité étoilée entre les mains de l'aube. Donnez-nous la paix. Et ce poème, qui pourrait évoquer le travail du poète. Nous rassemblons la cendre derrière chaque vie et les pierres enfouies dans la voie de nos morts, et nous construisons avec elles un autre silence vivant. Sans mourir, nous tombons comme un soupir dans les flammes, écartelés et blessés par des couteaux de neige. Et par-delà le silence, nous donnons voix à la muette lenteur de ce qui fut. Donnez-nous la paix. Nous croyons à la soif du ver vide, aux rivières tressées avec la bouche qui chante, à la fatalité légère des yeux en larmes, à la terre ensemencée par la nuit odorante, à la plume qui tombe de l'oiseau vers la vie, au navire chargé de tempête et à tout ce qui gouverne l'oubli. Donnez-nous la paix. Notre corps est un pain fébrile jusqu'au baiser, un minerai très tendre qui brille dans les mots, une question tissée de larmes, la caresse immémoriale d'une main restée secrète. Donnez-nous la paix. Et puis ces quelques poèmes de la deuxième partie où l'imploration finale, litanique, passe au début de chaque poème. Donnez-nous la paix. Qu'elle galope sous la pluie, cavalier pur, éblouissant, et que l'amour à son passage prenne feu. Donnez-nous la paix, et le vent de la paix, et ces maisons qui passent allumées, qui remplissent la nuit. Donnez-nous ces lits fertiles, ces chaises, tables et tasses si belles et rassurantes, ces portes où se croisent les hommes et les oiseaux, unis par leur destin, ces rues d'ombre vif, ces villes taillées dans un bloc d'azur, ces montagnes dressées par les prouesses de l'humus, ces vallées entourées à l'infini par le cercle des terres. Donnez-nous la paix, car la faim dans notre corps est un reptile aux écailles de feu, car la pluie s'infiltre sous les toits de palmes comme une main grande ouverte, car le froid est une lame qui s'enfonce à travers l'ombre. Nous voudrions seulement un bout de chemin au creux des mains, rien qu'un pan d'horizon au fond des yeux, une fenêtre remplie de fruits comme la mer. Et puis, pour terminer, ce tout dernier poème qui donne à entendre de manière presque charnelle le bruissement de la paix quand elle descend parmi les hommes. Donnez-nous la paix parce qu'elle porte en elle le monde et l'oiseau qui vole de toute sa brillance, et le blé mordoré qui pousse entre les songes, et la berceuse au lever du crapaud dans les sous-sols de l'aube, et l'offrande lumineuse de la fleur et le lac génital entre ses lèvres de sable, et le palmier qui plie sous la courbe du soleil, et les voiles de la mer qui croisent au large, et l'écharde qui allume l'étincelle dans la sève, et l'humus avec sa patine de lune naissante.